Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais également vous saluer dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle et il nous garde. Il nous préserve du mal et il nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, les versets 12 à 26. Chapitre 1, les versets 12 à 26. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin s'intitule tout simplement « Christ est ma vie ». Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant. Le secret de la vie abondante. Christ est ma vie, le secret de la vie abondante. Cette épître de Paul aux Philippiens est une lettre spontanée qui jaillit du cœur du grand apôtre comme un torrent jaillit de sa source pour s'élancer dans sa course sans fin. Il s'en va vers la plaine immense, l'arrosant, la fertilisant, de son eau abondante et débordante, répandant sur son passage une fraîcheur douce et bienfaisante, invitant constamment les âmes altérées à boire de cette eau vive et vivifiante. Alors, à l'exemple de Paul, l'âme pleinement désaltérée, abreuvée nuit et jour aux sources des eaux vives et nourrie de l'aliment perpétuel de la foi, fera jaillir de son être profond un chant de joie, un cantique de délivrance, un hymne à la gloire de Dieu, intitulé, selon la belle expression de Paul, apôtre, « Christ est ma vie ». Et Jésus dira, ou Jésus a dit, lorsqu'il était sur la terre, « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. » Le secret de la vie abondante. Premier point, quelques réflexions. Mais notre apôtre, où se trouve-t-il? Dans quelle situation est-il? Quel est le secret qui lui permet d'agir de la sorte? Est-il en vacances à la montagne, entouré d'amis chers et respirant l'air pur et frais des cimes enneigées? Est-il à la retraite, goûtant un repos bien mérité après tant de labeur, de fatigue et de peine continuelle? Ou bien a-t-il fait un héritage, lui permettant de vivre le restant de ses jours à l'abri des soucis d'argent, loin du monde agité, réalisant un rêve qu'il caressait depuis longtemps? Eh bien, il n'en est rien. Notre apôtre n'est ni en vacances, ni à la retraite, ni en train de réaliser son rêve. Mais il est prisonnier à Rome. Il est à la veille de son jugement, dont il ne connaît pas l'issue, peut-être la peine capitale. De plus, tandis qu'il est là, attendant le verdict de l'empereur, au dehors, des gens mal intentionnés prêchent l'évangile dans le but de lui susciter des tribulations dans ses chaînes. D'autres, il est vrai, le font avec des dispositions bienveillantes, et Paul, quoi qu'il en soit, se réjouit. Non seulement cela, mais à l'intérieur, il n'a personne qui partage ses sentiments. Il est plus ou moins seul avec le soldat auquel il est attaché. Épaphrodite, son cher ami, est tombé malade, à tel point qu'il a risqué de perdre sa vie. Ce n'est pas tout. Paul est accablé par les soucis que lui donnent les églises dont il a la charge. Bref, nous voyons que sa situation n'est pas brillante, qu'elle n'a rien d'enviable, et pourtant son cœur est en paix. Il déborde même de reconnaissance et invite ses lecteurs à se réjouir avec lui. Et pourquoi? Et pourquoi peut-il agir ainsi? Parce que Christ est sa vie. Et nous, comment aurions-nous réagi à sa place? Comment réagissons-nous lorsque les épreuves, les difficultés, les critiques, la maladie nous assaillent ou que nous nous trouvons en face de la mort? Sommes-nous à l'exemple de Paul, heureux et reconnaissant, plein de joie et d'espérance en Christ? Ou bien sommes-nous malheureux et mécontents? Inquiets face à l'avenir, déçus, frustrés par notre situation, accusant les circonstances, peut-être Dieu lui-même, de mettre un tel fardeau sur nos épaules, fardeau qui nous rend amers et révoltés. Comment réagissons-nous? Ceci nous amène à notre deuxième point que j'intitule « Explication ». D'abord quelques réflexions, maintenant quelques explications. Mais Paul, pourquoi pouvait-il, au sein des pires difficultés, louer et bénir son Dieu? Parce que Christ était sa vie. Et parce que Christ était sa vie, il n'avait qu'une envie, qu'un désir, qu'une passion, qu'un seul but. Se livrer à lui totalement, se consacrer à lui sans réserve, et le servir fidèlement nuit et jour, et quelles que soient les circonstances. Autrement dit, sa seule raison d'être et de vivre, c'était Christ et son évangile. Il ne vivait qu'en Christ, que par Christ et que pour Christ. En un mot, il était tout à Christ et Christ était tout à lui. Voilà son secret. Il savait qu'en dehors de Christ, il n'y avait pas de vie véritable. Il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de joie durable. Il n'y a pas non plus de pardon libérateur en dehors de Christ, ni de paix profonde, ni d'espérance. Et nous le savons bien. Avant de connaître le Seigneur, nous étions dans ce monde sans Christ, sans Dieu, sans paix, sans espérance, sans pardon, voués à la perdition éternelle. Et cette bienheureuse espérance de la résurrection, espérance que Paul possédait comme une ancre sûre du salut, parce qu'il était en Christ et parce que Christ était sa vie. Voilà ce qui remplissait sa vie et qui lui donnait un sens ainsi qu'un but. Et il pourra dire aux Colossiens, à ses chers amis colossiens, qu'ils n'avaient pas vu son visage, Christ en nous, l'espérance de la gloire éternelle. Cependant, il n'était pas immunisé contre les difficultés, les contrariétés, ni contre la souffrance. Il n'était pas non plus insensible aux problèmes des autres et aux détresses de ses amis, ni insouciant face au danger et à la mort, pas du tout. Si l'on considère son caractère énergique, son tempérament de meneur, son désir ardent de proclamer l'évangile au monde entier, ou encore le fait qu'il était comme nous, un homme avec ses forces et ses faiblesses, alors on comprend que la prison devait consumer son ardeur d'apôtre, et que l'inaction le rongeait, que la solitude lui pesait, que les soucis des églises l'accablaient, et que l'attente du verdict de César pouvait l'inquiéter, voire même l'angoisser, puisqu'il était un homme comme nous. Surtout quand on sait qu'il était innocent, et que s'il en était là, c'était à cause de ses compatriotes, des faux frères, des faux circoncis, qui en voulaient à sa vie, et qui ne reculaient devant rien pour le tuer. Alors pour la sauver, sa vie, dans l'intérêt de l'Évangile et de l'Église, il avait été contraint d'en appeler à César. On découvre ainsi que Paul avait toutes les raisons de se plaindre et de se lamenter, de se révolter contre Dieu et contre les hommes. Mais au lieu de cela, que fait-il? Il prie. Il se réjouit, il rend grâce, il témoigne de Jésus aux soldats de la garde prétorienne, il écrit des épîtres magnifiques. En effet, si Dieu ne l'avait pas conduit comme il l'a fait, et si Paul ne l'avait pas accepté comme il l'a fait, nous serions probablement privés aujourd'hui de la grande richesse spirituelle de ces épîtres de la captivité. Pensez seulement à Joseph lorsqu'il était en prison en Égypte. S'il s'était caché tout au fond de la prison dans un coin pour se lamenter et pour se plaindre, alors peut-être qu'il n'aurait pas eu ces visions. Et les chansons n'auraient peut-être pas dit au Pharaon: « Je connais un homme qui peut expliquer les songes. » Et Joseph ne serait peut-être jamais devenu premier ministre d'Égypte. « Et pourquoi Paul a-t-il tout supporté, tout enduré, selon qu'il le dit lui-même, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, pourquoi? Parce qu'il était millionnaire. Pardon? Non. Parce que Christ était sa vie. Et parce que Christ était sa vie, la prison même devient maison de prière, devient maison de Dieu, un lieu béni, une occasion de glorifier son Seigneur. Comme autrefois à Philippe, ou avec Silas, son compagnon d'œuvre, ils avaient été arrêtés à cause de l'Évangile, battus de verges, roués de coups, 40 coups moins un, et savez-vous pourquoi 39? Parce que souvent au 40e, on mourait. C'est ainsi que le dos tout meurtri, tout ensanglanté, lié à de lourdes chaînes, en proie à des douleurs atroces, jeté dans le cachot le plus profond, le plus froid et le plus sombre, Paul et Silas ont encore trouvé la force et le courage de chanter les louanges du Seigneur. Il faut le faire. Je le dis sans gêne, avec honte peut-être, je ne sais pas si j'étais dans une telle situation, si je pourrais chanter, comme Paul, je n'en sais rien. Parfois on a des épreuves beaucoup plus petites et j'arrive même pas à chanter. Et le geôlier l'a bien compris. Le geôlier l'a bien compris, mes chers amis. Ces hommes ne sont pas fous. Ce n'est pas la douleur qui les fait délirer. Non, ils ne sont pas dérangés, ni même détraqués. Mais l'évangile qu'ils proclament doit être une puissante réalité, puisqu'il les rend capables de chanter dans de pareilles circonstances. C'est pourquoi, sachons-le bien, frères et sœurs, ce n'est pas tant le tremblement de terre, ni les portes qui s'ouvrent toutes seules, ni les liens qui se rompent sans le secours d'aucune main qui ont convaincu le geôlier, pas du tout, mais bien la puissance de l'évangile manifestée par l'attitude de Paul et Silas qui pouvaient chanter dans de telles situations. Et nous? Et moi? Comment aurions-nous réagi à sa place ou à leur place? Comment réagirions-nous si on nous jetait en prison? Ce matin? Ce soir? Oh Seigneur, ça c'est pas vrai, alors il manquait plus que cela. Il y avait déjà une tuile l'autre jour, maintenant c'est tout le toit qui me tombe sur la tête. Oh, ça suffira. Mais nos deux héros, comment ont-ils pu rester calmes? Comment pouvaient-ils rester dans une attitude conforme à l'évangile qu'ils prêchaient? Comment? Oui, je vous le demande, comment? Parce que Christ était leur vie. Si Jésus n'était pas leur soutien, par sa présence sensible, par son esprit qui console et fortifie, alors Paul et Silas auraient été au comble du malheur, sombrant dans le plus profond des désespoirs. Mais le Seigneur Jésus est là. Et tout change, tout s'éclaire, tout chante. Un homme et sa famille sont conduits à la foi. Que les voies du Seigneur sont insondables et incompréhensibles, disait peut-être Paul à Silas. Mais qu'importe, le salut de cette famille valait bien quelques désagréments. D'ailleurs, ne sommes-nous pas heureux d'avoir été des instruments utiles dans la main de Dieu pour la conversion de cette famille? Et cette joie ne dépasse-t-elle pas la souffrance que nous endurons pour la cause de l'Évangile? Mais bien sûr que si. Peut-être vous l'ai-je déjà dit, mais après Jésus, la première personne que j'aimerais embrasser dans le ciel, vous savez qui c'est? Ouais. L'apôtre Paul. J'irai vers lui dès que j'aurai une minute, dès que le Seigneur m'en laissera le temps et l'occasion. J'irai le serrer dans mes bras et je lui dirai, dis Paul, dis-moi, comment as-tu fait? Je t'en prie, dis-moi, comment as-tu fait? Cependant, nous savons qu'autrefois, il n'en était pas ainsi dans la vie de Paul. En effet, en ce temps-là, toutes ses préoccupations, toute son ambition se résumait dans un seul mot, celui de pharisien. Il était à cette époque centré sur lui-même, sur sa personne, sur sa religion, sur ses traditions. Un zèle ardent le dévorait. Rien ne comptait plus pour lui que sa justice, sa piété, ses œuvres. En un mot, son moi était sa vie. Ce moi pécheur régnait en maître absolu sur son cœur. Le péché, tel un tyran dur et sévère, l'asservissait, l'avilissait, l'abaissait jusqu'à la brutalité, jusqu'à la bestialité. Son moi égoïste et orgueilleux l'a conduit sur la pente fatale de la haine, de la violence et de la mort. Aveuglé par son ambition démesurée et par son fanatisme religieux, Saul de Tarse en est arrivé à persécuter les chrétiens, à les mettre en prison et à les tuer. Quel drame, quelle tragédie. Et pourquoi agissait-il ainsi? Ah, pourquoi agissait-il ainsi? Parce que Christ n'était pas sa vie, du moins, pas encore. Mais justement, c'est à ce moment précis où Saul de Tarse, éminent rabbin, nanti de tous les droits, de tous les pouvoirs par le Sanhédrin, descendait à Damas pour arrêter les chrétiens. C'est à ce moment-là que Christ fit irruption dans sa vie. Et là, face à Jésus, il capitule. Et sa vie changera complètement, radicalement, à tel point que la vie de Saul le pharisien cessa et que commença par la grâce de Dieu la vie de Paul le chrétien. Et comme il le dira si bien lui-même aux Galates, sa devise sera désormais... Qu'est-ce qu'il a dit aux Galates? Ce n'est plus moi qui vis. Sa devise sera désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À quel moment la vie nouvelle a-t-elle commencé? Au moment où l'ancienne a cessé. Par conséquent, pour que surgisse la vie nouvelle, il faut nécessairement que l'ancienne périsse. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un vivant ressuscité? Autrement dit, il faut mourir pour vivre. Mourir à son ancienne vie pour ressusciter à la vie nouvelle. De plus, il faut mourir pour commencer de vivre. Il faudra continuer de mourir si l'on veut continuer de vivre. Nous devons donc mourir avec Christ afin de vivre en Christ et de pouvoir dire, comme Paul, Christ est ma vie. Hier, aujourd'hui, demain, toujours. Et nous le réalisons. Quant à l'exemple de Paul, nous renonçons consciemment, résolument à notre propre vie, à notre propre moi. Pour nous approprier tout aussi consciemment et tout aussi résolument la vie de Christ, c'est-à-dire sa justice. La justice de Christ est à moi. Son pardon, le pardon de Christ est à moi. sa paix, la paix de Christ est à moi, comme on l'a entendu tout à l'heure. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Et Paul pourra dire, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Sa sagesse est à moi, sa force est à moi, sa grâce est à moi, son amour est à moi. Et Paul pourra dire que nous sommes tout entiers à Christ et que Christ est tout entier à nous. Alors, et alors seulement nous expérimenterons, comme Paul, la communion des souffrances de Christ et la puissance de résurrection dans notre vie, dans nos situations, dans nos circonstances. Je précise, la communion des souffrances de Christ sont les souffrances liées à notre identification à Christ, à sa mort et à son ensevelissement. C'est notre mort au péché, le renoncement à soi-même, le sacrifice de notre vie, c'est le fait de porter notre croix jour après jour et d'en payer le prix de l'opprobre de Christ. C'est ici la communion aux souffrances de Christ. La communion dans la puissance de sa résurrection, c'est la puissance de la vie qui est en Christ et qui nous délivre de la loi du péché et de la mort. C'est la capacité spirituelle de vivre désormais dans la vie nouvelle, en Christ, par Christ et pour la gloire de Dieu, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Vous rappelez le dernier message que j'ai eu ici, j'ai posé une question tout à la fin. Pourquoi, lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, l'Écriture nous dit, chaque fois que nous mangeons de ce pain, que nous buvons de cette coupe, nous annonçons quoi? Oh, nous annonçons la mort. Moi, j'aurais dit, nous annonçons la vie. Mais Paul, l'Écriture nous dit, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il reviennent. Pourquoi nous annonçons la mort? Vous y avez réfléchi? Je vous avais promis la réponse, je vais vous la donner. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, parce que sans la communion à ses souffrances, sans la communion à sa mort, il n'y a pas de vie. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Nous pouvons nous débattre tant et plus, nous n'aurons jamais, jamais, jamais la victoire si nous ne consentons pas à mourir d'abord, à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes pour recevoir la puissance de la résurrection de Jésus, la puissance de la vie qui est en Christ et qui nous délivre de la puissance du péché et de la mort et qui nous fait vivre dans l'Esprit, par la puissance de l'Esprit et non plus selon la chair. À combien de fois n'ai-je pas dit avec l'apôtre Paul, misérable que je suis, oh, 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 qui me délivrera de ce corps de mort? Et si j'ai pris ce message ce matin, c'est parce que nous allons bientôt, si Dieu veut, si nous vivons, étudier l'épître de Paul aux Romains. J'espère que je vous ai mis un tout petit peu l'eau à la bouche. Chers amis, il est évident que le bon combat de la foi, le combat qui rejette le mal et qui fait le bien, s'il est conforme à la volonté de Dieu, coûte aux croyants le prix du renoncement à la chair, mais par contre lui apporte en abondance, en surabondance, la récompense de la vie en Dieu et pour Dieu, couronne éternelle de joie et de paix, d'amour, d'espérance, dès maintenant et à jamais. Et ne croyez pas que je suis déjà... Si l'apôtre Paul pouvait dire, ne pensez pas que j'ai déjà remporté le prix, à combien plus forte raison puis-je le dire, ne vous imaginez pas que j'ai déjà remporté le prix, au contraire, je suis comme vous. et vous êtes comme moi. Nous sommes tous embarqués dans la même barque avec le Seigneur, et nous avons tous besoin d'apprendre à ramer contre vents et marées, à renoncer à nous-mêmes, à nous emparer de la puissance de Christ pour vaincre. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi ? Amen. C'est notre foi. Et ceci nous amène à notre troisième et dernier point que j'intitule « Manifestation ». Nous avions d'abord quelques réflexions, ensuite quelques explications. Maintenant, c'est le troisième point, « Manifestation ». Alors, chers amis, le secret de Paul ne sera plus un secret. Car comme lui, nous vivrons en Christ, par Christ et pour Christ, dans la plénitude de la puissance divine qui est à notre disposition, dans la joie, dans la paix, dans l'espérance envers et contre tout. Et pourquoi le pourrons-nous ? Oui, pourquoi le pourrons-nous ? Parce que Christ est notre vie. Pas seulement la sienne, parce que Christ est notre vie. Comme Paul, nous ferons aucun cas de notre vie, comme si elle nous était précieuse. Mais comme lui, nous l'offrirons en sacrifice au Seigneur, sur l'autel de l'Évangile, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Puisque Christ est notre vie, nous saurons posséder notre corps dans la sainteté que produit la vérité. Puisque Christ est notre vie, nous laisserons le Seigneur nous conseiller, nous diriger dans l'utilisation de notre temps et de notre argent. Pas que les gens puissent dire, ah ben, tu vois ce chrétien, il est converti, mais jusqu'au porte-monnaie, pas plus loin. Puisque Christ est notre vie, nous rechercherons premièrement le royaume de Dieu, nous rachèterons le temps, car les jours sont mauvais. Et nous mettrons à profit toutes les occasions que Dieu nous donne pour témoigner et rendre compte de l'espérance qui est en nous, même si parfois cela implique des désagréments, des moqueries, car comme Paul, nous porterons l'opprobre de Christ, puisque Christ est notre vie. Et pour l'efficacité du témoignage, nous avons vu par l'exemple de Paul que notre attitude est très importante, déterminante, face aux différentes circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver à cause de l'Évangile. En effet, si Paul et Silas, au lieu de se fortifier en Christ, s'étaient mis à se lamenter sur leur sort, le Seigneur n'aurait probablement pas manifesté sa puissance et le geôlier ne se serait peut-être pas converti. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'ai-je fait jusqu'à aujourd'hui? Ai-je vécu dans la plénitude, dans l'abondance de la grâce, dans la surabondance de la grâce? Ai-je vécu par moi-même, par mes propres forces? Quoi qu'il en soit, réjouissons-nous. Réjouissons. Pourquoi ? Parce que Christ vient aujourd'hui, comme il est venu hier, comme il viendra demain et comme il viendra toujours, nous prendre par la main, là où nous en sommes, pour nous dire, mon enfant, viens, reprends courage, reprends ton chemin et marchons ensemble dans la victoire, vers la gloire. D'accord ? Quelle qu'ait été notre vie jusqu'à aujourd'hui, réjouissons-nous, parce que le pardon de Dieu nous est acquis, parce que le sang de Jésus-Christ nous lave, comme on l'a dit tout à l'heure, nous purifie de tout péché, parce que nous marchons dans la lumière, dans la transparence, parce que nous sommes prêts de dire au Seigneur, voilà comme je suis, je viens à toi tel que je suis, ne cachons rien, ne négligeons rien, ne dissimulons rien. Mais disons au Seigneur, viens, prends-moi par la main, je veux continuer la marche, je veux poursuivre la course dans la carrière que tu m'as ouverte avec toi. Aide-moi, prends ma main, fortifie-moi, aide-moi à comprendre ce mystère du renoncement à soi-même et de la vie pour Dieu dans la plénitude de l'Esprit. Puisque Christ est notre vie, nous prendrons tout de la main de Dieu, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Paul, malgré les situations difficiles, des circonstances parfois contraignantes et pénibles, nous ne nous laisserons pas dominer par elles, mais libres dans le Seigneur et fortifiés par lui, par sa grâce toute puissante, nous serons au-dessus de toutes les choses terrestres et nous pourrons, comme lui, comme Paul, vivre pleinement la vie de Christ. Et enfin, puisque Christ est notre vie, puisque Christ est en nous, c'est lui qui va combler notre vide intérieur, qui répondra à tous nos besoins. Ou bien, oh non, pas à tous, quelques-uns, le reste je peux me débrouiller. Non, qui répondra à tous nos besoins, qui satisfera nos aspirations les plus intimes et les plus profondes. Il scellera notre identité, façonnera notre personnalité, dominera notre tempérament, formera notre caractère à sa ressemblance. D'ailleurs, ne chantons-nous pas « Te ressembler, Jésus », c'est quoi? C'est le dernier de mes soucis. Ah! Pardon? Te ressembler, Jésus, c'est mon vœu suprême. Il sera notre sécurité, notre richesse, notre nourriture spirituelle, notre force, notre sagesse en tout et partout. Alors, puisque Christ est notre vie, nous pourrons dire comme Paul. Aïe, attention, mettez la ceinture, ça y est. Vous avez mis la ceinture, vous êtes bien assis. Puisque Christ est notre vie, nous pourrons dire, comme Paul, à sa suite, selon son exemple, selon la promesse qui est aussi pour nous, je puis presque tout par celui qui me fortifie. Vous n'avez pas la même Bible? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je vous dis, mes chers amis, à ce sujet, je suis dans mes petits souliers et j'ai besoin de grandir. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche et beaucoup de terrain à conquérir. Que Dieu nous fasse la grâce et que ce soit notre prière, notre vœu le plus cher pour l'année qui s'ouvre devant nous, si Dieu nous prête vie, de ne vivre jour après jour qu'en Christ, que par Christ et que pour Christ. Alors, on dira de chacune et de chacun de vous, Christ est sa vie. Amen.